Bonjour tout le monde, Pasteur Pat qui vous parle. Aujourd'hui, on tourne nos regards vers la croix, la merveilleuse croix de Jésus-Christ pour en considérer quelques-unes de ses bontés. Et la première question qu'on va se poser ce soir, c'est pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Eh bien, quand on parle de la croix, on parle de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Et quand on parle de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, on parle de l'œuvre accomplie, on parle de l'œuvre du Seigneur. Ben, l'œuvre du Seigneur, c'est beaucoup plus que la croix. L'œuvre du Seigneur, évidemment, c'est le point culminant de l'œuvre de Christ. Et l'œuvre accomplie va tout englober de l'incarnation à l'ascension. On va parler de la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection, de l'ascension. Hein? Ces cinq aspects-là de la vie de notre Seigneur, hein? Ben, ça englobe, en fait, sont nécessaires, sont requis, sont le fondement, hein? Ils constituent le fondement de l'œuvre accomplie de Christ. Et donc, quand on parle de la croix, il ne faut jamais simplement morceler. Hein? Faut pas diviser, faut pas comme si on met de côté tous les autres aspects de l'œuvre accomplie. On doit toujours garder en tête que ça forme un tout. Hein? Et ça, c'est important. Bon. Alors, l'incarnation. Hein? L'incarnation, c'est la condition nécessaire à la croix. Dans l'incarnation, Dieu s'est fait homme, il s'est incarné, il a pris la nature humaine et il est mort pour tous ceux qui partagent cette nature. Alors voyez-vous comment c'est important de comprendre que Christ, évidemment, ne pouvait pas mourir sur la croix à moins de s'incarner. Mais il n'est pas mort sur la croix pour par hasard, là. Hein? Il a crucifié, c'est la nature humaine qui a été crucifiée sur la croix. C'est pour l'être humain qu'il est mort. Évidemment, il est mort pour toute la création parce il s'est uni il s'est joint à la création et c'est pour la création qu'il est mort. C'est pour ça que la rédemption touche toute la création. Pourtant, il est mort spécifiquement, hein, pour l'être humain parce qu'il n'est pas devenu, il s'est pas fait, je sais pas moi, un lion, il s'est pas fait renard, il s'est pas fait un aigle, il s'est fait être humain. Et c'est en tant qu'être humain qu'il est mort à la croix, et c'est pour les êtres humains qu'il a payé un prix si élevé. Et donc, Christ, l'œuvre de Christ, la mort de Christ, c'est la mort d'un être humain, pas n'importe quel être humain, c'est la mort du Dieu homme. Et cette mort-là a une portée extraordinaire, comme on va voir un peu plus tard aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de l'œuvre de Christ, on doit se rappeler quelque chose de fondamental qui va même avant l'envoi du Fils par le Père. Et de quoi on parle en ce temps-là? Bien, on va parler de l'amour du Père. Hein? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Ce qu'il fait va donc manifester ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il fait va être empreint, va manifester l'amour de Dieu. Hein? Il y a certaines personnes qui vont dire, comment est-ce qu'un Dieu souverain, hein, va aimer? Va manifester sa souveraineté dans son amour. Ben, vous savez, la plus belle définition que la Bible donne de Dieu, c'est que Dieu est amour. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment un Dieu souverain exerce sa souveraineté dans son amour, c'est comment un Dieu amour va exercer son amour dans la souveraineté. Excusez-moi, comment est-ce qu'un Dieu d'amour va exercer sa souveraineté? Hein? Parce que ça va être l'amour qui va être le guide, qui va être la direction, qui va être comme le guidage de la souveraineté. Ce n'est pas la souveraineté qui décide qu'est-ce qu'il aime. C'est l'amour, parce que Dieu est amour, qui va guider, qui va être la motivation, qui va s'exprimer dans les actions, dans les décisions, dans les faits et gestes de Dieu. Dieu va exprimer son amour dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il décide, dans toutes les facettes de ce qu'il fait, parce qu'il est amour. C'est ce qu'il est. Et tout ce qu'il fait va exprimer cet amour-là. Donc, c'est quelque chose d'important à concevoir, à comprendre et à réaliser. Ensuite, vous savez, Dieu est amour et donc, il va agir par amour pour lui-même. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, on voit ici que Dieu va agir par amour pour lui-même. Mais est-ce que Dieu agit seulement par amour pour lui-même? Ce n'est pas ce que le texte dit ici. Affirmer l'un, c'est jamais nier l'autre. Quand j'affirme une chose, je ne peux pas tirer une conclusion négative, ou n'importe quelle conclusion négative de l'affirmation d'une positive. Je ne peux pas, en affirmant quelque chose, je ne suis pas en train de nécessairement nier tout le reste. Oui, je vais nier certaines choses parce que la vérité est exclusive, mais en affirmant que Dieu agit par amour pour lui, je ne suis pas en train de nier qu'il peut aussi agir par amour pour les autres. OK? Par contre, en affirmant que Dieu agit par amour pour lui, je nie qu'il n'agit pas par amour pour lui. OK? Je ne sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas, c'est ça. En affirmant que Dieu agit par amour pour lui-même, je ne peux pas du même coup nier que Dieu n'agit pas par amour pour lui-même. Dieu va agir par amour pour lui-même, mais affirmer qu'il agit par amour pour lui-même, je ne suis pas en train de nier qu'il agit aussi par amour pour les êtres humains. D'ailleurs, on va le voir dans Osée 3.1, par exemple. L'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. » Osée 3.1. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu agit par amour pour les humains. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le Fils fait ce que le Père fait. Donc, on voit que Dieu est amour. Il va agir par amour pour lui-même. Il va agir par amour pour les autres. Puis le Fils, puisqu'il est le Fils du Père, qui va agir comme le Père fait, il va avoir ce cœur d'amour pour les humains. Il va venir chercher ce qui est perdu. Il va venir chercher et sauver ce qui est perdu. D'ailleurs, on le voit ici, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Regardez bien ce qui est extraordinaire ici, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. On voit vraiment l'amour de Dieu manifesté dans l'envoi du Fils qui veut chercher et sauver ce qui est perdu. Parce que le Père ne veut pas qu'aucun périsse. Le Père ne veut pas qu'aucun périsse. Et là, on voit la beauté, l'œuvre. Je disais tout à l'heure qu'avant de penser à la croix, avant de penser à l'œuvre de la croix, il faut considérer l'intention d'amour que le Père avait comme sauveur. Ésaïe 43, qu'est-ce que le texte d'Ésaïe 43 va dire? Il va dire, on va tourner vers là, on va tourner dans Ésaïe 43. Laissez-moi juste tourner là, j'avais pas pensé le lire, mais là, il vient de me sortir dans ma tête, alors je vais tourner là, puis je vais vous le lire. Il va dire, on va commencer, verset 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyiez, que vous me compreniez, que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, après moi, il n'y en aura point. C'est moi, verset 11, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Il dit, ainsi parle l'Éternel, verset 14, votre rédempteur. OK, donc, on voit vraiment un Dieu sauveur. Premièrement, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est sauveur, le Dieu qui est rédempteur, va agir en accord avec sa nature et sa souveraineté va être exprimée, hein, va s'exercer en accord avec cette nature qui est amour, avec cette nature qui est sauveur, avec cette nature qui est rédempteur. Pourquoi il est sauveur? Pas parce qu'il était sauveur depuis toute l'éternité, il n'y avait rien à sauver dans l'éternité. Par contre, dès lors que, parce qu'il est amour, face à la détresse, face à la misère humaine, Dieu va être sauveur. Écoutez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, je vais vous le lire. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne comptabilise pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Hein? L'amour. Alors, quand on considère la définition même que la Bible donne de l'amour et qu'on réalise que le Dieu qui est amour, il est agapé, et que l'agapé a une définition claire dans les Écritures, quand on met les deux idées ensemble, on obtient l'image du Dieu qui est amour qui agit pour l'intérêt des autres, qui agit pour l'intérêt d'autrui. Ce n'est pas pour rien que quand le gars est venu voir Jésus, puis il a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus a dit, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de ta force. Puis le deuxième commandement qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. C'est qui mon prochain, ils vont dire. Hein? Jésus va prendre volontairement la parabole du Samaritain. Du gars qui s'est fait battre par les bandits, qui est sur le bord de la route. Puis là, les religieux passent à côté, puis ils ne s'arrêtent pas pour porter secours à l'être humain qui est à terre. Ils le délaissent, ils passent à côté. Le Samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, puis il en prend soin. Bien, l'image du Samaritain qui prend soin de ce gars-là dans le caveau, c'est l'image de Dieu. Dieu qui toujours est intéressé à porter secours. Il ne s'imposera pas, il n'imposera pas son secours. Mais il est toujours prêt à secourir, par exemple. Toujours. Avez-vous vu car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quelle belle idée! On est les porte-parole de Dieu, et Dieu, le Créateur de l'univers, le Dieu exalté en majesté. Il n'y a pas de plus grande majesté dans l'ensemble de tout l'univers que Dieu, que le Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas de plus exalté que lui. Et alors même qu'on a la vision d'un Dieu élevé et exalté, imaginez-vous là, la majesté divine. Prenez le temps de réfléchir, de méditer à la majesté divine. 2 secondes. Pensez à la majesté. Pensez à Ésaïe 6. Hein, quand Ésaïe voit le Seigneur élevé sur son trône et le pan de sa robe qui remplit le temple. Réfléchissez à ça. Et maintenant, prenez l'image que vous avez dans votre tête d'un Dieu élevé et exalté. Et imaginez-le en train de supplier les hommes d'être réconciliés à lui. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5 ici. Regardez-le encore. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu supplie les hommes par notre propre bouche. C'est pas extraordinaire ça? Pourquoi la croix? Mais par amour pour les humains. Il y a une réponse simple au pourquoi de la croix. Dieu nous aime. Dieu aime tous les humains. Et donc, la croix s'étend à tous les humains. Maintenant, là, justement, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est vrai, Patrice, que la croix s'étend à tous les humains? Donc, on pourrait se poser la question, pour qui la croix? Bien, quand on parle de cette question de pour qui la croix, il y a 3 aspects qu'il faut garder en tête. Il y a l'intention de la croix, il y a la portée de la croix, puis il y a l'application de la croix. Alors, l'intention pour qui était destinée la croix, on l'a vu, Dieu est amour, Dieu aime tous les hommes, Dieu est rempli d'affection pour l'humanité, pour qui la croix, hein? Pour qui était destinée la croix, l'intention suprême de Dieu, qu'est-ce que c'était? Ensuite, la portée de la croix, qui est inclue dans l'œuvre de la croix. Puis ensuite, l'application à qui s'appliquent les vertus de la croix. 3 aspects qu'il faut toujours garder en tête quand on parle de la croix. L'intention, la portée et l'application. Si on oublie l'un de ces aspects-là, on va tomber dans une erreur ou dans une autre. Quelqu'un qui oublie l'application, que la croix va s'appliquer à certaines personnes et non pas à d'autres, on va tomber dans l'universalisme. Parce que tout le monde est sauvé. Mais si on pense que la portée de la croix est limitée, on va tomber dans une autre hérésie où est-ce que là, Christ est mort seulement pour certains hommes. Alors, l'intention, pourquoi, pour qui, à qui ça s'applique? OK? On va regarder ça dans les moments qui vont suivre. Donc, premièrement, qui le Père voulait-il inclure à la croix? Ça, c'est l'intention. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, on l'a dit tantôt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, qui est-ce que Dieu a aimé? Il a aimé le monde. Et nous, ça c'est dans Jean 3,16, dans 1 Jean 4,14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alors, voyez-vous, il a envoyé le Fils dans un but. On l'a vu tantôt quand le Fils a dit « Je suis venu chercher sauver ce qui était perdu. » Mais le Père a envoyé le Fils avec l'intention qu'il soit sauveur du monde. Du monde. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, donc Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc l'intention de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. OK? Donc là, on voit clairement ici que l'intention de Dieu, quand on parle de la croix, est englobante. Hein? Jésus-Christ, il ouvre ses bras à la croix pour englober toute l'humanité. Et alors qu'il pend sur la croix, alors qu'il est à veille de rendre l'âme, qu'il est à veille de rendre son dernier souffle, avant même qu'il dise que tout est accompli, il va dire « Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Fils va intercéder pour les non-sauvés, pour tous ceux qui sont contre lui, pour tous ses ennemis. Hein? Le Fils intercède pour ses ennemis. Quelle merveille! OK, donc, ensuite, qui est inclus dans l'œuvre de la croix? Alors, regardons quelques versets. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. On l'a déjà dit à plusieurs reprises dans le passé, Christ, et puis on l'a dit en début de aujourd'hui, tout à l'heure, avant, au début du message, Christ s'est incarné. Dieu s'est incarné. C'est la nature humaine qu'il partageait, qui a été crucifiée à la croix. C'est tout Christ. Il n'y a pas une séparation avec Christ. C'est la personne de Jésus-Christ a été crucifiée. Et puisque la personne de Jésus-Christ a été crucifiée, la nature humaine a été crucifiée. Maintenant, Christ est mort, donc, et c'est pour les humains qu'il est mort. Donc, tous les humains, hein, la suffisance de la croix, la suffisance réelle de la croix, englobe tous les humains. Donc, Christ est mort pour tous les humains. OK? Il est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Ça s'applique, puis là, je me devance, mais ça s'applique aux croyants. OK? Justement, Timothée 4:10, je l'ai lu il y a quelques secondes, mais là, il dit, Dieu qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas au jugement. Vous voyez, à qui s'applique la croix, ben, c'est à ceux qui croient. Ça, c'est qui est pas pareil, mais ça s'applique à eux autres. À ceux qui croient. La croix s'applique à ceux qui croient. Est-ce que ça veut dire que ça ne s'applique pas à tout le reste? Nécessairement. Mais pas pour le salut, pour la résurrection. Tout a été plongé dans la mort avec Christ, tout ressuscite avec lui, mais chacun dans son rang. C'est ce que 1 Corinthiens 15 explique. Les chrétiens, hein, les gens qui sont sauvés dans la première résurrection, puis les non-chrétiens ou les non-sauvés dans la dernière résurrection. Mais pour qui est résurrection? Christ devait, ça bouge, excusez-moi, pour qu'il y ait résurrection des justes et des injustes, tout doit être plongé en Jésus-Christ, puis tout est ressorti de la mort en Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui ne reçoivent pas l'offre gratuite du salut, comme condition au salut, non pas pour le mériter. Hein, la foi ne mérite rien. Tu ne peux pas mériter quelque chose que... La foi ne mérite rien. Le salut n'est pas à vendre. Le salut, ça ne se mérite pas. Okay? Ça s'offre gracieusement. Gratuitement, Dieu l'offre et il nous le donne à condition qu'on ait la foi. C'est une offre conditionnelle. OK? Bon. Maintenant, donc, on a vu plusieurs choses. On a vu, hein, en premier lieu, on a vu pourquoi la croix. C'est une des questions qu'on a répondues. Et ensuite, pour qui la croix? Et là, on va répondre à une dernière, excusez-moi, à une dernière question qui est que fait la croix? Que fait la croix? C'est une question importante. Il faut comprendre que la croix, premièrement, c'est une satisfaction pour la justice de Dieu. C'est une satisfaction. Et la Bible va utiliser plusieurs analogies différentes pour parler de la satisfaction que procure la croix, que procure le sacrifice de la croix. La Bible va parler du sacrifice de Christ, justement, en tant que sacrifice, en tant que propitiation. On se rappelle, c'est quoi une propitiation? Bien, une propitiation, c'est que si je vous donne le fameux exemple des mesures de les contre-mesures, hein, quand vous voyez les films de guerre, puis que, je ne sais pas moi, il y a un sous-marin ou il y a un avion, et là, il y a un missile qui s'en vient vers l'avion, et là, l'avion ami jette des contre-mesures, et là, le missile ennemi va frapper la contre-mesure plutôt que frapper l'avion ami. Bien, l'avion de notre héros, bien, ça, c'est une propitiation. La colère a frappé autre chose. la colère divine a frappé le Fils plutôt que nous. Ou on devrait dire peut-être la justice divine a frappé, dans le fond, il s'est frappé lui-même, parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Le Fils était à la fois parfaitement Dieu, 100% Dieu, 100% homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et donc, Dieu s'offre lui-même en sacrifice et accepte de recevoir le châtiment que méritait l'être humain à la place de l'être humain. Et en ce sens, ça offre une satisfaction à sa propre justice. Okay. Donc, la Bible utilise aussi le langage de la rançon d'une dette ou du paiement, du règlement d'une dette. Maintenant, il y a plusieurs manières de voir la notion de paiement de dette. Il y a, je vais vous le montrer dans quelques secondes, on peut payer une dette en espèces de la même sorte, en espèces équivalentes. Par exemple, j'ai marqué ici, Pierre doit 50$ canadiens à Paul. Pour acquitter sa dette, il doit lui rendre exactement cette somme en dollars canadiens. Alors, c'est dans la même catégorie d'espèces, la même genre d'espèces, il doit payer la dette de la même façon que qu'est-ce qu'il doit. Vous comprenez l'idée de paiement de dette? Il y a une autre manière de concevoir la dette, c'est-à-dire que le créancier va accepter quelque chose pour satisfaire le paiement de la dette. À ce moment-là, ça ne sera pas du cent pour cent. Ça va être un paiement qui est acceptable de la part du créancier, du débiteur, pour régler la dette. Okay? C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, alors la dette qui encourt le péché, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, au jour du grand pardon, il n'y avait pas autant de boucs que de personnes qui avaient péché dans le camp. Il y avait un bouc qui était offert en sacrifice d'expiation et un bouc sur lequel on confessait les péchés du peuple. Un était tué, l'autre était envoyé dans le désert. Mais là, ce sacrifice unique était une satisfaction pour la justice divine. Ça couvrait le péché, évidemment, c'est une expiation. Ça ne pardonnait pas le péché, mais c'était quand même une satisfaction. Alors, vous voyez que ce n'était pas scène pour scène. C'était quelque chose que Dieu acceptait de recevoir en paiement d'eux. Okay. Maintenant, le paiement de la croix n'est pas l'équivalent exact de la dette humaine. Il y a un pas qui manque ici là, sur ma diapositive. Le paiement de la croix n'est pas l'équivalent exact de la dette humaine. Bien au contraire, la valeur de la mort du Fils de Dieu ne peut qu'être démesurément grande quand on la compare avec la dette humaine. Le sacrifice de Christ offre une satisfaction plus que suffisante pour Dieu. Je donne ici l'exemple du bouc expiatoire que je viens de vous parler au jour du grand pardon. Un seul bouc était offert à Dieu. Alors imaginez-vous si un bouc pouvait faire l'expiation pour tous les millions d'individus qu'il y avait dans le camp d'Israël. Alors, un bouc, le sacrifice d'un bouc en sacrifice expiatoire offrait la satisfaction pour l'ensemble du peuple, à combien plus forte raison le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde offre au Père une satisfaction plus que suffisante. Alors, il ne faut pas voir ça comme si Dieu avait un grand chiffrier électronique, un grand Excel divin. Et là, il y avait un montant qu'il attribuait en termes de péché commis par les êtres humains, dans la ligne des débits et des crédits. Et que là, à chaque fois que quelqu'un péchait, il prenait une coupe de gouttes du sang de Jésus, par exemple. Il disait, OK, OK, ben là, et que là, quelque part, on avait un genre de grand cylindre gradué où est-ce que le volume du sang de Christ était continuellement débité de la même quantité qu'il appliquait sur les péchés des gens. C'est pas quelque chose qui est comme ça, là, qui se dit, OK, ben là, il reste tant de millilitres du sang de Christ, là, je suis désolé, mais vous pouvez pas. Non, c'est pas quelque chose comme ça. La valeur du sang, la valeur de la mort de Christ, ce que ça vaut, évidemment, le sang a été aspergé dans le tabernacle céleste la valeur de l'offrande de Christ est démesurément grande par rapport au, tu as beau mettre tous les chiffres que tu veux dans la colonne des péchés humains, là. Jamais le total va équivaloir à l'infinité de la valeur du Fils. Jamais. C'est pour ça que la mort de Christ est plus que suffisante pour tous les hommes, pour tous les péchés de tous les hommes. Puis c'est pas parce que quelques-uns qui acceptent pas que tout d'un coup, oh mon Dieu, les gouttes de sang qui allaient pour lui, ben ils vont être gaspillées. Mais non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas comme un grand réservoir divin de sang de Christ, puis que tout est appliqué comme ça, c'est goutte pour goutte. C'est la mort, le sang qui a été appliqué, la mort de Christ, tout ça ensemble, la valeur infinie de Christ. De toute façon, peu importe la somme qu'on soustrait à un infini, ça demeure toujours infini. Okay. Fait que, donc, voyez-vous comment est-ce que la beauté, la grandeur, la magnificence de la mort de Christ, c'est pas du goutte pour goutte, là. On compare deux quantités qui sont incommensurables, qu'on peut pas comparer les deux quantités. T'sais? On peut pas les comparer. Donc, réfléchissez à ça. Réfléchissez. Aujourd'hui, on a vu quelle était l'intention de la croix. Je veux revoir ça avec vous ici, là, parce que c'est trop important. Alors, on a vu pourquoi la croix. On a vu l'intention divine derrière la croix. Pourquoi la croix? À cause de l'amour de Dieu. On le dit ici. Hein? Pourquoi la croix? Parce que Dieu aime tous les êtres humains. Ensuite, pour qui la croix? Dieu aime tous les êtres humains. Christ est mort en tant qu'humain. Il est mort pour tout ce qui était humain. Donc, il a donné sa vie pour tous, en rançon pour tous. Ensuite, on a vu que quand on pense à la mort de Christ, il y a trois aspects qu'on doit considérer. On doit considérer l'intention derrière la croix, qui était l'amour de Dieu pour tous les hommes, la portée de la croix, qui est inclus dans l'œuvre de la croix, et l'application. Pour qui s'applique la croix? On a vu que dans l'application, il y avait deux aspects. Il y avait d'un côté l'aspect de la vie donnée et de la mort qui a été écrasée, et que maintenant, parce que Christ ressuscite des morts, tous les hommes ressuscitent, chacun dans leur rang. On a vu aussi que ça s'applique spécialement, principalement pour les croyants. Pourquoi? Parce qu'en plaçant notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, les vertus de la croix s'appliquent à moi. Les vertus du sang versé s'appliquent à moi. OK? Donc, l'intention, la portée et l'application. Ensuite, on s'est tourné vers ce que faisait la croix. On a parlé d'expiation. On a parlé de l'expiation particulière où est-ce que le sang de Christ, l'agneau de Dieu, enlève les péchés du monde. Il ne fait pas juste les couvrir comme le sang de l'Ancien Testament, il les enlève. On a parlé aussi d'une rançon, d'un paiement. Un paiement qui n'était pas scène pour scène, qui était vraiment un paiement démesurément grand. On aurait pu parler aussi d'une substitution où est-ce que Christ est mort à la place des êtres humains. Alors, le châtiment, alors là, on rentre dans la notion de propitiation, où est-ce que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui, il a été notre substitut. Et tout ça, c'est la beauté de la croix. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment.